Décrypte, le podcast de l'actualité numérique en Afrique, avec Adil Abdelali.
Et bienvenue dans ce nouveau numéro dans lequel nous allons aborder les défis et les enjeux de l'intelligence artificielle en Afrique. Et pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir une figure emblématique de l'IA au Maroc, Amal Fellah Sarrouchni, présidente exécutive de AI Movement, le Centre international d'intelligence artificielle du Maroc. Alors l'importance de l'IA à l'échelle mondiale, effectivement, n'est plus à démontrer, mais à l'échelle africaine, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les pays du continent sont pleinement entrés dans cette révolution de l'IA ?
C'est très variable selon, bien sûr, les régions et les pays, mais il y a un véritable engouement vers l'adoption de l'IA et des sciences des données. Et on a quelques programmes phares qui sont un peu, mis en valeur et surtout portés par des grands pays africains. Je vais citer le Maroc, le Bénin, le Kenya, l'Afrique du Sud, sans être exhaustive évidemment. Il y a des grands projets, des grands programmes de développement d'intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit. Il y a des centres, il y a les GAFAM qui s'installent en Afrique, qui créent des centres de R&D, par exemple. Le Kenya, on a Google, par exemple, qui s'est installé. Il y a vraiment un engouement vers l'IA et les sciences des données. Au Maroc, nous avons créé le Centre international d'intelligence artificielle du Maroc, qui se veut un hub régional dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, nous lançons aussi de nombreux programmes en direction de l'Afrique subsaharienne, mais aussi l'Afrique centrale, etc. J'aurai l'occasion peut-être de revenir sur ce type de programme. L'idée, en fait, c'est de développer des projets, des partenariats d'envergure sur le programme African Women in Tech and AI. Nous visons, à horizon de 3 ans, de développer 5 licornes africaines dans le domaine de l'IA et de la tech. Alors, pour avoir participé au recrutement, puisque c'est sur appel d'offres, on a comme objectif de former 150 femmes qui ont déjà des entreprises dans le domaine de la tech, et on veut les parer avec les outils de l'intelligence artificielle. Pour avoir participé au recrutement, on voit que les femmes africaines ont beaucoup de projets qui s'y prêtent très très bien dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, et avec un souci assez permanent sur les aspects écologiques et de développement durable. On retrouve beaucoup de programmes et de projets que ces femmes ont développés, donc elles ont des start-up la plupart. Alors nous, notre objectif, c'est de les accompagner techniquement, c'est-à-dire de leur apporter des compétences techniques dans les matières qu'elles ne maîtrisent pas ou les techs qu'elles ne maîtrisent pas, mais aussi de les aider à faire... vous savez, parfois, on a besoin juste d'un petit coup de pouce pour aller vers le marché, le grand marché. Donc l'idée, c'est de rendre scalables ces projets.
Et est-ce que les pays africains ont aujourd'hui justement les moyens financiers et humains pour concurrencer les pays les plus performants dans le domaine de l'IA ?
Alors, tout le monde n'a pas les moyens, c'est clair. Il y a des pays qui sont moins dotés que d'autres. Mais moi, je suis optimiste sur les talents africains. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique ne fournira plus que des ressources minières, etc. Mais plutôt, l'Afrique va développer, et c'est déjà le cas, prenez le cas du Maroc, on peut revenir dessus, il y a vraiment de vrais talents, de vraies intelligences qui vont développer ces technologies, et qui sont déjà, on sent quand on est sur le continent, qu'il y a déjà un changement de mindset par rapport au rapport Nord-Sud sur les technologies émergentes. Prenez l'exemple du Maroc. Vous allez à l'Université Mohamed VI Polytechnique, vous avez un lycée d'excellence qui fournit 40 étudiants par an à l'école polytechnique en France. C'est connu, il y a beaucoup d'articles dans Le Monde, Le Monde, des autres journaux qui parlent de ce lycée parce que c'est vraiment une expérience assez unique. Et ce même lycée d'excellence, il vient d'être créé à Rabat. Il était à Ben Guerir, il y a un deuxième à Rabat. Donc vous imaginez un pays qui forme chaque année une centaine de polytechniciens pour commencer. Ben, il y en a la moitié qui reviennent. Et il y a aussi un article aussi qui est paru dans la presse et qui reprend un peu le sentiment général, c'est que beaucoup de jeunes ne veulent plus partir. Donc on est sorti du schéma, on forme des jeunes, ils vont aller faire leur vie à l'international, etc. Non, il y en a beaucoup qui ont envie de rester et de travailler pour leur pays. Et donc ça va changer complètement la donne en termes de... Quand on sait que 60% des métiers à horizon de 2030 seront cognitifs, on voit bien que la cognition ne nécessite pas les mêmes moyens qu'avant. C'est-à-dire qu'il faut avoir une tête bien faite surtout. Et ça ne manque pas en Afrique. Vraiment, ça ne manque pas. J'ai vu le programme, les femmes qui ont pitché en marge du programme African Women in Tech, je peux vous dire qu'elles n'ont rien à envier aux autres. Elles sont, en plus, elles ont la hargne, elles ont l'envie de réussir, elles ont le dynamisme. Et on ne compte pas les heures. Moi, je suis très choquée quand j'entends les débats sur récurrents sur les 35 heures, non, 28 heures, etc. Aujourd'hui, comme disent les Chinois, si on ne pédale pas, on tombe. Aujourd'hui, il faut apprendre toute sa vie. On ne peut pas dire on va travailler un petit peu, on va avoir la qualité de vie. Non, le travail de demain, ça ne va pas être ça.
Alors, on le sait déjà à l'avenir, et c'est même le cas encore aujourd'hui, l'IA servira entre autres à gérer des quantités astronomiques de données, ce qui pose naturellement le défi des infrastructures numériques capables d'héberger et de gérer cette big data. Sommes-nous prêts, selon vous, en Afrique pour relever ce challenge ?
Alors, les infrastructures africaines sont comme ailleurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir penser frugal. Aujourd'hui, en Europe, on dit qu'il faut arrêter de stocker des données pour stocker des données. On va faire des systèmes peut-être qui vont demander une autre façon d'organiser les données, moins de données. On parle d'intelligence artificielle hybride pour ne pas faire que de la data. Donc, il y a aussi, en termes de techno, de technologie, des changements dans le mindset. On parle l'IA frugale, c'est l'IA qui va consommer moins d'énergie, qui va stocker moins de données, etc. Donc aujourd'hui, ce qui se passe avec les données, c'est un vrai problème mondial. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les data centers sont énergivores, etc. Les Africains peuvent acquérir ces data centers. La question qui va se poser pour tout le monde, que ce soit en Afrique ou en Europe, c'est comment gérer ces données, comment les protéger, quelle durée de vie leur donner. Et ça, c'est un sujet global. Je pense que l'Afrique n'a pas à résoudre ce problème. Ce que le Covid a révélé, c'est que tout est global. En fait, un virus au fin fond de la Chine, il a contaminé toute la planète. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, elles vont se répartir à l'échelle planétaire. Vous savez, vous pouvez aujourd'hui faire tomber un pays sur l'administration centrale à partir de l'autre bout de la planète. Et donc, cette globalisation des risques, mais aussi des inputs, c'est-à-dire des revenus, fait qu'il faut repenser. On peut stocker ces données ailleurs, on n'est pas obligé de les stocker en Afrique. Aujourd'hui, la plupart des clouds ne sont pas sur les territoires. Et donc, ça va poser des questions, surtout de protection des données à l'échelle planétaire.
Alors, il y a effectivement cette question de la protection des données qui pose problème et qui entre dans le cadre du vaste débat autour de la réglementation de l'IA. Est-ce qu'on doit tendre, selon vous, comme le préconisent certains, vers une réglementation à l'échelle mondiale ?
Oui, alors les recommandations de l'UNESCO, l'UNESCO a pris 5 pays pilotes pour voir comment appliquer. Donc, readiness assessment, qui vont être, disons, adoptés et déployés dans 5 pays prioritaires qui ont signé, qui ont fait des accords avec l'UNESCO, dont le Maroc, le Mexique, par exemple. Je vous dis que c'est un problème compliqué et complexe. Et l'arrivée de AI Act ne va pas simplifier les choses, puisque ça va se télescoper quelque part. Et rajouter à cela la prise de conscience au niveau mondial. Il y a eu un G7 sur le chat GPT, donc c'est pas rien. Il y a une conférence, un sommet qui va se tenir en décembre en Inde sur c'est le Global Partnership on AI, pour discuter à nouveau les questions d'éthique. Donc, personne ne s'attendait à l'arrivée du chat GPT en novembre dernier. On était sur les recommandations éthiques, on commence, mais le chat GPT est arrivé, c'était le tsunami, et ça a bouleversé tous les métiers, pas que l'éducation, pas que le management, etc. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un modèle de croissance exponentielle et d'avancée des technologies, et la réglementation ne suit pas. Donc, soit on va arriver au niveau global, forcément au niveau global, on va arriver à des accords. On ne pourra pas fermer les frontières parce que les data circulent, les algorithmes circulent, c'est comme les virus. Un virus fabriqué au Kenya, il peut très bien aller aux Pays-Bas. Hein, y a pas de... Et donc, je prends des exemples, c'est pas du tout, c'est juste des exemples. Vous mettrez pays X, pays Y sur deux continents différents. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir sérieusement. Vous savez, il y a eu un appel à faire une pause sur les développements d'intelligence artificielle. Il va falloir se mettre autour d'une table et réfléchir sérieusement à où est-ce qu'on veut aller avec ces technologies. Personne ne va arrêter, ça c'est parce que les gains de production sont monstrueux, mais il faut quand même arriver à mettre sur la table cette réglementation, ces certificats des systèmes d'intelligence artificielle que l'Europe souhaite mettre en place. Les États-Unis commencent à se poser sérieusement la question. Jusque-là, c'était le vieux continent qui se pose des questions un peu dépassées. Mais là, non. Et les Américains s'y sont mis aussi. Reste la Chine, qui veut faire son éthique toute seule. C'est vrai qu'avec 1,4 milliard de personnes, on peut vivre tout seul. Mais quand même, si pour exporter et pour venir faire du business ailleurs, c'est ce qu'ils font de toute façon, il va falloir quand même qu'ils se mettent autour de la même table.